Hubert de Boisredon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Armor Group. On va parler avec vous d'une acquisition de la société Holo Solist. On va parler d'énergie renouvelable et puis de stratégie aussi. Vous en êtes sur cette partie. Commençons effectivement sur cette participation que vous avez annoncée. Pourquoi peut-être accélérer ou en tout cas continuer dans cette partie-là? On va parler de transition énergétique, de solaire notamment.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Armor Group investit dans le capital de Holo Solist à hauteur de 20% du capital avec un siège au conseil de surveillance. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit directement dans la stratégie du groupe Armor, qui est une ETI industrielle nantaise, qui est spécialiste de l'induction de couches minces sur film mince, qui a investi depuis des années dans les films solaires et dans les films collecteur enduit pour l'amélioration de la performance des batteries. Donc cet investissement participe pour nous de réindustrialiser la France et l'Europe dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier du photovoltaïque.
Quand on parle de cette société, peut-être tout le monde ne connaît pas Holo Solist, qu'est-ce qu'elle a justement comme intérêt sur le plan technique par rapport à ce que vous avez justement, quelles vont être les synergies que vous allez pouvoir mettre en place?
Alors, Holo Solist, si vous voulez, se prépare à être la plus grosse usine de fabrication de panneaux photovoltaïques en Europe, avec une capacité à terme en 2027 de 5 gigawatts, 10 millions de panneaux solaires. Pour vous donner une idée, si vous voulez, ça permet d'équiper 1 million de foyers par an, donc c'est considérable. Et Holo Solist va représenter à peu près 8% des utilisations de panneaux solaires français. Vous savez qu'on est dépendant, la France est dépendante à 95% de l'importation de panneaux solaires chinois. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour la France parce que ça veut dire que la France, grâce à ce projet, reprend pied et avec une volonté forte de stopper, entre guillemets, cette dépendance totale de la Chine en matière de panneaux solaires.
Justement, parler de ces panneaux solaires, peut-être que comme vous connaissez bien ce sujet, quand on voit les différents panneaux solaires aujourd'hui installés, on en voit un peu plus, de plus en plus d'installations, mais on n'a pas forcément, quand on est de l'extérieur comme ça, quand on les voit, on ne peut pas faire la différence entre les différentes technologies qui sont présentes. Il y a une vraie, véritable évolution sur ce plan-là. Il y a des nouvelles technologies qu'on peut apporter.
Oui, tout à fait. Il y a différentes technologies. Bon, là, Holo Solist veut développer une technologie qui est une technologie nouvelle. Donc, ce sera un peu long de détailler les caractéristiques, mais avec voilà, qui permet d'obtenir des taux de rendement importants. C'est une technologie aussi qui peut permettre de greffer des compléments, comme ce qu'on appelle les tandems perovskites, qui permet encore d'améliorer les rendements, sur lesquels Armor Group pourrait d'ailleurs apporter une contribution avec notre expérience technique. Mais j'allais dire surtout, ce qui est important, c'est la taille. C'est que là, on parle d'un investissement majeur. Par exemple, je suis allé avec les équipes de Holo Solist lors du dernier conseil de surveillance sur le terrain en Moselle, à Sarreguemines. Et c'est impressionnant de voir ce site qui est complètement déjà préparé avec les connexions d'eau, d'électricité, etc., de 55 hectares. Donc, il va être complètement couvert par cette nouvelle usine. Voilà, la taille fait la compétitivité. On va, par rapport à l'importation des panneaux chinois, ben on a aussi l'avantage écologique de fabriquer localement, donc d'économiser du coût carbone des transports. Et puis, il y a un très fort soutien et du gouvernement dans le cadre du plan France 2030 et également de la région Grand Est. Et tout ça est très important pour la future compétitivité du projet. On parle de la création tout de même de 1 700 emplois.
Oui, ce qui est effectivement significatif. On peut se poser la question quand on voyage sur notre beau territoire, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au sud. Quand on va un peu plus au sud, on dit qu'il y a un peu plus de soleil qu'à l'ouest. Mais on n'a pas vu quelque part un dynamisme sur le solaire. On le voit dans d'autres pays, peut-être méditerranéens. Vous, quand vous voyez ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu cet engouement sur la partie solaire, j'ai envie de dire, allez, pour simplifier, au sud de la Loire?
Oui, je pense que si vous voulez, c'est très lié à la configuration des acteurs de l'énergie en France, à la différence de l'Allemagne ou même des Pays-Bas ou de pays du Nord et du Sud, bien sûr, comme l'Espagne. Quand vous regardez la configuration des acteurs de l'énergie en France, vous avez EDF qui est leader sur le nucléaire, vous avez Engie qui est leader sur le gaz, vous avez Total qui est leader sur le pétrole, mais finalement, il n'y a pas de vrai leader sur le photovoltaïque. Et du coup, je pense que l'accentuation n'a pas été mise sur une vraie stratégie de déploiement photovoltaïque par ces énergéticiens en lien avec le gouvernement. Les politiques se sont cherchées, il y a effectivement les problèmes de compétitivité et d'importation massive de panneaux chinois pas chers. On en arrive à une absurdité, c'est que finalement les subventions publiques servent à faire tourner les usines chinoises. Bon, voilà, il est temps de remettre de l'ordre et je pense que le gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé le projet Eolosolis comme un projet stratégique majeur lors du sommet Choose France en mai 2023 au château de Versailles. Et ça traduit de fait un changement d'état d'esprit avec une vraie volonté de définir une stratégie pour le solaire en France qui n'existait pas avant.
Et il est encore temps, si on peut dire, parce que bah, on sait bien que les Chinois, ils vont s'adapter, comme ils l'ont toujours fait. On le voit d'ailleurs dans d'autres secteurs, sur l'automobile, ils se préparent là, mais ils vont pas laisser forcément les parts de marché d'acteurs européens se développer comme ça.
Alors, il est tout à fait encore temps parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que les coûts en Chine vont monter dans le temps, puisqu'il y a des sujets de salaire et on voit que voilà, le niveau des salaires des ouvriers chinois progresse. Ensuite, il y a une conscience écologique qui grandit, c'est-à-dire que quand même, faire venir des panneaux de Chine, on se rend bien compte que ce n'est pas la panacée. Il y a des sujets géopolitiques. Bon, tout le monde est bien au courant des tensions entre la Chine et Taïwan. Qu'est-ce qui se passe si ces tensions, malheureusement, se matérialisent dans un conflit? On va se retrouver exactement dans la situation qu'on a connue avec le gaz russe, une dépendance totale. Donc, je pense qu'il y a un réveil des consciences. Enfin, Holosolide va viser dans un premier temps, si vous voulez, l'application des panneaux solaires pour les particuliers, pas forcément pour faire, voilà, pour faire des grandes centrales. Et donc le marché du particulier a besoin de proximité, a besoin d'accompagnement, etc. Et donc moins sensible à aller rechercher le prix le plus bas à tout prix, à n'importe quelle condition. Bon, je rajoute enfin, et ça c'est plutôt un sujet éthique, qu'une grande partie des panneaux solaires sont fabriqués avec du travail forcé, notamment avec les Ouïghours. Ça pose des vraies questions éthiques et que je pense qu'il commence à y avoir une conscience sur le fait qu'il faut inverser les choses. Donc on peut estimer qu'un projet comme celui-là va être aidé aussi par une plus grande rigueur dans les politiques françaises et européennes d'importation vis-à-vis de l'importation de panneaux chinois.
Alors, on parle de ces évolutions technologiques et de ce potentiel-là. J'ai pu voir aussi que vous avez dû vous adapter. Vous, par exemple, en Allemagne, vous avez cédé des actifs de films solaires organiques et vous rappelez dans votre communication que finalement, vous étiez peut-être en avance, mais que les pouvoirs publics ont été peut-être pas, eux, au point sur cette partie-là.
Tout à fait. En fait, Armor, avec son savoir-faire, a développé depuis 2008, en lien avec le CEA, avec l'Institut national de l'énergie solaire, on a développé des films solaires souples, organiques, donc sans silicium ni métaux rares, qui ont comme caractéristique d'être 30 fois moins lourds que les panneaux solaires traditionnels. Donc effectivement, on s'est dit, ça va être, voilà, ça répond à un vrai besoin, notamment pour couvrir les façades de bâtiments, les garde-corps, les toits fragiles, etc. Donc, on a misé beaucoup d'argent sur cette technologie. On a investi depuis 15 ans une centaine de millions d'euros, ce qui est beaucoup pour une ETI. Ça n'a pas, on n'a pas eu tous les, enfin, on n'a pas atteint le niveau des débouchés qu'on attendait. D'une part, parce que les énergéticiens français, je pense, ne se sont pas mobilisés suffisamment. Et je pense que c'est lié à ce que je vous disais avant, c'est qu'en fait, aucun d'entre eux n'est leader sur le solaire et donc préfère simplement importer des panneaux chinois pas chers pour maximiser leur marge, plutôt que de soutenir des innovations photovoltaïques françaises. Donc ça a été clairement une déception. Et puis, on n'a pas eu le soutien et suffisant de la région Pays de Loire et du gouvernement qui cherchait à peut-être à comment nous aider, mais dans le cadre de la législation européenne, pardon, n'a pas trouvé le mode. Bon, voilà. Donc du coup, c'est ça qui nous a poussé à réorienter notre stratégie, même si on garde toujours la production de grosses bobines photovoltaïques organiques. Et qu'on a pu céder notre filiale allemande à une société allemande qui s'appelle Hering. Et donc, on fournira des grosses bobines de films photovoltaïques organiques à cette société allemande. Donc, on reste dans le domaine, on reste toujours engagé dans les films dits OPV, hein, photovoltaïque organique. Mais maintenant, on va compléter cette stratégie par l'impact très fort du projet Eolosolis.
Alors, on est dans un contexte, bien sûr, vous l'avez rappelé d'ailleurs en parlant de sujets géopolitiques, contexte de guerre, il y a l'inflation qui est toujours là, même si elle a ralenti. Comment le dirigeant que vous êtes envisage, là, vous faites voilà, ce type d'investissement, comment vous... Il y a d'autres activités aussi qu'on n'a pas parlé, mais sur la partie impression notamment, comment vous faites pour, dans une période peut-être un peu moins visible, avancer, continuer à investir, c'est toujours un challenge, on le sait, pour les ETI. Quelle est un peu votre stratégie?
Alors, si vous voulez, en fait, les périodes difficiles, on en a connu, hein, on a traversé 2008-2009, il y a eu une période de très forte hausse des matières premières sur le plastique et donc sur les films plastiques en 2011. On a connu la période du Covid. Et un peu la stratégie qu'on adopte à chaque fois, en tout cas c'est une de mes convictions, c'est que paradoxalement, c'est quand l'économie ralentit qu'il faut accélérer les investissements d'innovation pour préparer l'étape d'après. Et donc c'est ce qu'on fait. On vient d'annoncer un investissement majeur de 37 millions d'euros dans une nouvelle usine de collecteurs enduits, qui sont des composants... pour les batteries lithium-ion, qui permet d'améliorer la durée de vie des batteries de 20% et leur performance. Donc là, on fait sortir de terre une nouvelle usine dans le sud de Nantes, à côté de notre usine actuelle. Voilà, on le fait, on investit maintenant, et on pense que quand l'usine sera en place, quand la production sera prête, ça coïncidera avec un cycle de reprise économique, et donc on espère bien en tirer les fruits à ce moment-là. Mais il faut garder confiance, tenir bon, faire le gros dos dans ces moments-là, et puis surtout pas désespérer, ce qui est fondamental.
Ça veut dire aussi avoir de la trésorerie dans des périodes moins fastes, ou en tout cas être bien positionné dans, s'il y a un ralentissement économique, pouvoir tenir la distance, comme on dit.
Oui, ça doit être couplé avec une stratégie aussi de rigueur, c'est-à-dire que là, on connaît un ralentissement économique, donc sur notre activité principale des consommables pour l'impression des codes-barres, même quand il y a moins de production, moins de consommation, ben, il y a moins d'étiquettes codes-barres, donc il y a moins de vente de nos films. Ben là, il faut être rigoureux, donc ça implique des mesures, parfois de chômage partiel, de restrictions de production, pour bien tenir nos coûts, pour traverser. Et comme je dis aux équipes, nos fondamentaux restent parfaitement solides. Notre technologie est optimum, mais simplement quand il y a une baisse des ventes, bah, il faut diminuer un petit peu la voilure et se préparer pour la reprise qui va suivre.
Oui, ça fait partie du savoir-faire de certaines ETI avec lesquelles on a l'occasion d'évoquer ces sujets de stratégie. Merci Hubert de Boisredon d'avoir fait le point avec nous sur cette acquisition.
Oui, merci. J'en profite pour dire que c'est vrai que je crois vraiment à la force des ETI qui ont comme atout d'être assez grosses pour traverser les crises, mais en même temps qui sont flexibles. Donc, c'est un petit peu le banc de poisson par rapport à la baleine. On peut s'adapter et donc je pense que c'est un vrai atout que les ETI peuvent avoir pour l'économie française dans ces périodes.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.